Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Abandonné, laissé seul sur le bord de la route, dans le froid, cerné par le Covid et la DEP, vous aviez cru que le chip vous avait abandonné. Vous avez cru qu'on n'était plus là, mais on est là. Faites du bruit un peu.
Oui.
Donc welcome back dans le chip et welcome back à mes acolytes. Donc Kevy, historien extraordinaire, comment ça va Kevy?
Présent, on survit.
On tient. On s'accroche.
On est là.
Et François, journaliste pop culture de l'extrême, comment ça va François?
Sar, quel plaisir d'être là à nouveau
on
avec
est back
vous.
Dans les bacs.
Ça fait plaisir.
C'est fou, contact. C'est dingue. Alors, en ces temps de débat sur la non-mixité, on ne sait pas si le gouvernement va nous target et nous annuler pour séparatisme pop culturel, mais en attendant, n'en déplaise à Darmanin et à Schiappa, détendez-vous, le chip continue à être là pour vous et tout va toujours bien se passer. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu sur cette nouvelle saison, nouvelle prod, nouvelle identité visuelle, nouveau sujet, même équipe, qu'est-ce qui s'est passé?
Nouveau podcast, Hoodies.
Ouais,
nouveau
c'est un peu ça.
Look
ouais.
Pour une nouvelle vie.
Ouais.
On a continué notre tradition de nomade.
C'est ça. 2019-2020, c'était un petit peu la traversée du désert.
J'y croyais pas, franchement. Je croyais pas qu'on allait encore. Franchement, je vous le dis comme je le pense. Hein.
Le podcast itinérant, quoi.
Franchement, les gens, ils se foutent de nos gueules hein, sur les réseaux, Twitter et tout, à chaque fois. Alors, j'ai vu un de nos auditeurs et amis, Arzel, qui disait « Alors, dans quelle crèmerie vont être cette fois-ci le chip ?» Et il disait ça en déconnant, à la base. Mais
ouais, et en fait, il avait raison.
On a encore changé de crème. Et j'en commence à en avoir marre.
J'avoue.
Mais, on est content d'être là.
On est content. Voilà. C'est super accueil, super studio, super matos, tout.
On est visible maintenant en plus.
Ouais.
C'est ça, Studio Majorel. Maintenant, vous pouvez nous voir sur YouTube. Vous pouvez contacter. Vous pouvez profiter du chip à la fois dans vos oreilles et dans vos yeux.
Les mirettes
sur ouais. YouTube, vous pouvez nous trouver. On sera sur les réseaux aussi. On fera des petites vidéos pour les réseaux, des trucs comme ça.
Ouais.
Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Des nouveaux formats, des nouvelles idées.
Des surprises.
Ouais, des surprises, des nouveaux invités, des trucs comme ça. On va dépoussiérer un peu le truc, quoi. Non
imaginez, il n'y a plus le Covid et on peut voir les gens et tout en vrai, comme on avait fait des fois. On a fait des lives et des soirées et tout.
De fou, non? On va refaire des... Je pense qu'il y aura un moyen, non, de refaire des lives aussi dès qu'on pourra...
Peur d'être devenu agoraphobe.
Non,
t'approches pas de moi.
Ce sera emmerdant pour tes visites, en plus.
Ouais,
pas plus de 3 visiteurs par visite.
Non, mais en tout cas, on est super contents et du coup, on va pouvoir commencer l'épisode.
Oui.
Au sommaire de cet épisode, de ce premier épisode de cette nouvelle saison, on va vous faire un petit épisode, 3 salles, 3 ambiances, donc un petit retour aux sources en quelque sorte. Alors, tout d'abord, dans une pièce feutrée, capitonnée de roses, Kevy va nous parler de Norman, l'humoriste, et de sa relation aux femmes noires, si j'ai bien compris.
C'est ça, Norman et les femmes noires.
D'accord, ça promet. Ensuite, moi, Mélanie, je vous emmènerai dans ma cave à paillettes pour vous parler du retour des années 2000 et de pourquoi il doit tout, mais alors tout, à la black culture. Et pour finir, cerise sur le gâteau, François, dans son boudoir tapissé panthère, va nous parler de la mort du rappeur américain DMX et de ce qu'elle représente.
Ouais, et un peu aussi, d'un film culte que j'ai beaucoup kiffé, Belly, on en parlera tranquille plus tard.
Ok, trop bien. Bah, si vous êtes prêts, hein ? On y va ?
Ouais, bah, c'est parti. Alors moi je vous ai dit que je voulais vous parler de Norman et des femmes noires, un petit rappel des faits. En décembre dernier, Norman Tavo de Norman fait des vidéos, un des piliers du YouTube game français, a sorti son deuxième stand-up sur la plateforme Prime Video, le spectacle de la maturité. Mélanie, il y a quelques années, t'avais décerné un trash à Norman, on avait déjà parlé dans le chip, c'était au sujet d'une blackface, c'est bien ça ?
C'était au sujet ouais, d'un truc qu'il avait fait, une vidéo sur on peut plus rien dire, on peut plus rigoler comme on pouvait rigoler avant.
Ok, super. En fait, avant tout, je préface en disant que j'aime beaucoup YouTube, mais que je connais très mal Norman. Je connais pas bien le travail des gros YouTubeurs français, Cyprien, Squeezie, Enjoy Phoenix. J'ai découvert la semaine dernière qui était Lena Situation.
Non.
Si.
C'est un problème. Wow.
J'ai cliqué. Je connaissais de nom depuis quelques semaines, mais j'ai cliqué pour la première fois la semaine dernière. Et pourtant, je regarde YouTube du matin au soir, j'adore ça, mais je pense que je connais pas parce que l'algorithme de YouTube a craqué mes goûts et je n'ai que du contenu islamo-gauchiste compatible dans ma page d'accueil. Mais pour revenir à Norman, j'avais déjà entendu parler de ses problèmes de mœurs assez sordides, et la semaine dernière, il y a de nouveaux éléments qui ont été révélés par Urbania, un média québécois. En gros, il y a une enquête en cours.
Il y a des vieux bails au cul.
Ouais. Entre le Canada et la France pour des histoires de harcèlement sexuel sur mineurs, des histoires sombres de nudes, de DM. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je viens ici distinguer l'homme de l'artiste.
Ça faisait longtemps.
Non, en fait, je voudrais vous parler dans un premier temps du spectacle. De quoi parle ce spectacle? En fait, Norman, il a la trentaine, donc c'est un jeune vieux ou un vieux jeune.
Comme nous, quoi.
Voilà. Et il est conscient de son image de comédien pour adolescent et il veut la casser. Donc, il propose un humour un peu plus controversé, un peu plus adulte, d'où le titre du spectacle. Donc, il nous parle de son rapport au succès, de son manque de charisme. Bon, il est lucide. De la langue française mise à mal par Aya Nakamura, des réseaux sociaux, de Uber, de la paternité, de la vie en couple.
Du coup, t'as regardé tout le spectacle?
J'ai regardé tout le spectacle et je peux déjà vous dire que c'est pas très bien.
T'as un vrai travail journalistique, franchement. Hein.
Franchement, médaille.
Je l'ai maté aussi pour me faire mon propre avis, parce que j'ai vu les...
Ah, tu l'as maté?
Mais oui, je l'ai maté, parce qu'en fait, j'ai vu les indignations sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à un truc dont j'imagine tu nous parleras plus tard.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais me faire mon avis quand même, histoire de voir. J'aime bien faire du hate-watching des fois, tu sais, en mangeant, tu sais, un truc que je sais qui va être nul, tu vois. Comme Emily in Paris, tu vois, j'ai maté que comme ça, c'est ma série de déjeuner, tu vois, la série que je regarde sans me concentrer. Et j'ai tenu vraiment 15-20 minutes avec toute la meilleure volonté du monde. Sans aucun a priori négatif, sans aucune malveillance, à un moment, je me faisais chier, je suis passé vraiment à autre chose, tu vois. T'as tenu tout le spectacle?
Okay. J'ai tenu tout le spectacle et voilà, je tiens à dire que c'est pas très bien, c'est même pas bien du tout, c'est ni drôle ni fin. Il aurait dû plagier des humoristes américains pour le coup.
Comme font les vrais, quoi.
Comme font les vrais. Il aurait dû emprunter des blagues à Louis C.K. et pas emprunter le lifestyle de Louis C.K. Donc du coup, Norman, dans son spectacle, il essaye de s'attaquer à la question du racisme, il n'aurait pas dû. Donc en gros, il reconnaît vite fait l'existence du racisme, mais ce qui l'embête vraiment, c'est le fait que les blancs ne peuvent pas aller aussi loin que les noirs dans la vanne, dans l'irrévérence. Donc clairement, Norman n'a jamais entendu parler de Charlie Hebdo. Et puis ensuite, il enchaîne en parlant du prochain James Bond, et là, c'est le drame.
Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond, qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin, agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok bon. James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme
voilà.
Ça. Voilà,
une femme Renoir,
c'est... On va changer du jour au lendemain pour un quota.
Tu peux dire une Renoir.
Une femme noire.
Mais une femme Renoir.
On dit pas le mot noir.
Voilà, James Bond, je l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on va pas le changer pour un quota. Donc François, toi, ta première action, c'est l'emploi des mots, les choix sémantiques qui te dérangent, ou c'est l'idée
Non, bien sûr, évidemment que je me suis... Non, mais je te dis, je me suis indigné comme tout le monde, parce que je me dis, mais bon, déjà, voilà, Fatoumata Bond, c'est une vanne raciste, c'est une vanne paresseuse, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis arrêté d'ailleurs peu après ce passage-là, quoi, parce qu'en effet, c'est vrai que...
C'est dommage, ça devient super bien juste après. Hein.
Ah mince, alors c'est à ce moment-là qu'il devient Dave Chappelle, etc. Non, mais c'est vrai que ça fait genre 4 ou 5 ans maintenant qu'on passe notre temps à régulièrement faire ce genre de sujet-là. On a fait littéralement un sujet à James Bond, je sais plus, c'était un trash iconique, je crois.
Sur
Idris Elba qui aurait dû être James Bond. On a fait la même chose sur la petite sirène, pourquoi la petite sirène ne serait pas noire. On a fait la même chose sur... Je pense que c'est un peu un marronnier du chip de tous les 2 ou 3 épisodes d'avoir pourquoi ce serait pas un noir ou une noire, tu vois. Donc bon, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de te dire, quoi.
Mais moi, c'est la vacuité du truc, en fait. Tu vois, moi, je pense qu'il y a des trucs marrants à dire sur ça, mais pas « Ah, regardez, ils ont mis une femme noire, donc c'est nul ». C'est le niveau, mais même pas zéro, c'est le niveau moins 50 de la réflexion que tu peux avoir sur ce truc, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le fait que quand même James Bond ça commence à être rincé et que du coup il faut que la franchise survive, donc on essaye de s'adapter, on essaye de devenir woke, enfin il y a des trucs marrants, n'allons pas trop vite. Le gars il est nul, désolé,
c'est effectivement ça. Déjà pour donner un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc Norman il fait référence à Lashana Lynch, actrice britannique d'origine jamaïcaine castée dans le prochain James Bond, le 25e, No Time to Die, attendu pour l'automne 2021. Auditeur, auditrice du Chip, je sais que tu es éveillé, que tu vas t'agacer et me dire que c'est encore une douille d'Hollywood qui veut se refaire une virginité, que la représentation pour la représentation, ça ne sert que les puissants, les multinationales, que ça n'égratigne même pas le statu quo. Eh bien, pour Norman, ça va déjà trop loin, ça va déjà trop vite. Il a un point de côté. Donc, ce qu'il y a de problématique dans ces propos, ça a été très bien relevé par la chanteuse Iseut et le compte Twitter Décolonisons-nous. Pour résumer, donc, ce que tu disais sur le prénom Fatoumata, on stigmatise un prénom tout à fait respectable, Fatoumata.
Elles se prennent toujours des balles perdues, alors qu'elles ont rien demandé, normalement, comme ça,
en France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, Lashana Lynch, elle ne jouera pas le rôle de James Bond. James Bond sera toujours endossé par Daniel Craig. Dans le dernier James Bond, en fait, il a quitté les services secrets, le MI6, et très légitimement, l'agence recrute Nomi, une jeune femme noire qui prend la fonction de 007. Donc on ne blackwash pas James Bond. Norman raconte du caca. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'on n'entend personne s'offusquer du whitewashing de l'Égypte des pharaons, d'Alexandre Dumas, etc. En fait, ce qu'il sous-entend, c'est qu'une femme noire qui joue le rôle d'un agent secret, ce n'est pas crédible parce que femme, parce que noire. Fatoumata Bond. Et pourtant, si, c'est possible. Avant de parler de la question noire, parlons du genre. Il y a bien eu des femmes espionnes, évidemment. Il y a une vidéo de Manon Bril sur sa chaîne YouTube. C'est une autre histoire qui l'explique très bien. Ça s'appelle « Les femmes espionnes ». Et en fait, l'idée d'une femme espionne, ça ne correspond pas exactement à la version que le cinéma et la plupart des romans d'espionnage nous présentent. Hein. Il arrive parfois, effectivement, que ce soit une femme, mais le plus souvent, c'est un mec blanc. Pourquoi pas, hein,
on a quand même la figure de Mata Hari qui est assez...
Mata Hari, elle en parle dans... justement, Manon Bril, elle en parle dans sa vidéo. C'est pas vraiment une espionne.
Ouais,
c'est une courtisane, etc. qui récupère pas mal d'informations sur l'oreiller, etc. C'est pas vraiment une espionne au sens où on l'entend. Mais oui, voilà, on a quelques figures comme ça. Mais moi, je parle pour l'instant de fiction, tu vois. Il y a parfois des femmes qui sont espionnes, mais le plus souvent, c'est un homme blanc, BG en toute situation, quasi immortel. Il pourrait faire du quad sur le toit d'un TGV, sauter du haut d'un hélicoptère, coucher avec toute une ribambelle de femmes de toutes les couleurs, voir les couvertures des romans SAS de Gérard de Villiers. C'est particulièrement problématique.
Tu me parles d'un monde qui me fait tellement rêver, là.
Il peut faire tout ça et arriver à la dernière seconde et empêcher une explosion nucléaire. Donc la franchise James Bond, elle embrasse tous les tropes, souvent avec ironie, hein, et c'est du gros divertissement, il n'y a pas de problème. Mais plus récemment, en France, par exemple, on a eu le Bureau des légendes. Moi, je viens de finir la première saison. C'est moins tape à l'œil et beaucoup plus crédible. Il y a certes des missions de terrain, mais il y a beaucoup de bureaucratie. On sent qu'il y a une bureaucratie pesante. C'est un métier ingrat. On ne comprend pas toujours les instructions de la hiérarchie. L'information est souvent compartimentée pour protéger les secrets. Et puis, on est souvent, et ça, j'y reviendrai plus tard, dans la zone grise. Mais est-ce que ça veut dire qu'une femme noire ne peut pas être espionne ?
Dans l'histoire, c'est jamais arrivé, je pense.
Jamais arrivé dans l'histoire. En fait, c'est un domaine, par définition, qui est très opaque. Mais moi, j'ai deux exemples historiques connus et avérés de femmes noires espionnes badass. Harriet Tubman et Joséphine Baker. Donc, Harriet Tubman...
Mais c'est pas très réaliste, quand même, non ?
Harriet Tubman, donc, elle est née dans le Maryland. Elle est née esclave vers les années 1820. Et elle gagne le surnom de Moses, ou de Moïse en anglais, parce qu'elle a la tête de l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin, qui n'est pas vraiment un chemin de fer, mais plutôt un projet secret clandestin qui a permis de faire évacuer des milliers, voire des dizaines de milliers d'esclavisés vers le nord du pays. Et puis ensuite,
d'ailleurs, il y a une série Canada. Sur l'Underground Railroad qui va sortir.
Pas vu. Ah, elle va sortir, sur
Amazon, je crois.
Parce que c'est Barry Jenkins,
ouais,
c'est ça, qui sera donc Moonlight. Donc ouais, c'est lui qui sera la qui réalisation.
Il y a eu aussi un film, peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, un biopic sur Harriet Tubman. Je ne l'ai pas vu.
C'était pas ouf.
Alors moi, les seules critiques que j'ai entendues, c'était pas tellement sur le film, c'est le fait que, encore une fois, c'était l'actrice est britannique. Ouais, ouais. Voilà, bref. Mais en plus de son rôle pendant... l'époque de l'esclavage avec le Underground Railroad. Pendant la guerre de sécession, en fait, l'armée du Nord des États-Unis va utiliser sa connaissance du terrain pour faire des repérages. Elle va mener des équipes d'éclaireurs, elle va mener des assauts, etc. Donc, c'est vraiment un personnage qui, sans aucune ambiguïté, a vraiment été espionne, infirmière, enfin, plein de trucs différents. Elle devrait bientôt apparaître sur le billet de 20 dollars.
Oui, que Trump avait bloqué
exactement.
À son époque. Ouais.
En fait, voilà, Trump, en fait, c'était avant que Trump soit élu, on avait annoncé le billet de 20 dollars. Trump et son administration ont fait oui, enfin on verra en 2028. Et puis finalement, là, Biden a dit qu'ils allaient mettre un petit coup d'accélérateur, donc ce sera pour bientôt.
Oui, parce qu'on peut rappeler que sur le billet de 20 dollars, pour l'instant, c'est un esclavagiste.
C'est le 7e président des États-Unis qui s'appelle Andrew Jackson, qui était un très bon président des États-Unis, sauf si t'es noir, mexicain ou amérindien.
Voilà.
Et puis le deuxième exemple de femme espionne, bon ben voilà, Josephine Baker, qui n'est pas juste une artiste, mais qui est aussi une femme d'action, qui a mis son réseau, ses moyens au service de la France libre à une époque où c'était compliqué. Elle a été décorée par le général de Gaulle, elle a fini sous lieutenant des forces françaises libres à une époque où voilà, c'était un truc assez compliqué.
Dans l'imaginaire français, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, Josephine Baker, c'est surtout la meuf qui danse avec les
avec
bananes
ouais.
Autour du...
Après, globalement, on le dit souvent quand même, qu'elle a commencé comme ça et qu'elle a fini résistante.
Moi, j'ai jamais su. Je vais te dire, quand est-ce que j'ai appris que Josephine Baker était autre chose qu'une danseuse?
C'est en lisant mon calendrier.
C'est quand j'ai fait ma première visite du Paris Noir, désolé.
Non, ils en parlent dans le secret d'histoire sur France 3 de Stéphane Bern.
Merci,
c'est pas
Stéphane.
Terrible. Mais ouais, ils abordent la question de Josephine Baker, résistante, etc. Mais en fait, moi, ce que je voudrais aussi aborder sur la question d'être un espion ou d'être une espionne, c'est la question délicate de la discrétion. Un agent, ça doit pouvoir se fondre dans la masse, et là, ça a double tranchant. On pourrait avancer le fait que les racisés soient beaucoup plus contrôlés, surveillés et tout simplement visibles que les blancs. Si vous faites contrôler par la police tous les 500 mètres, vous n'êtes pas un bon agent secret. Si vous êtes en mission incognito dans le nord de l'Écosse et que vous êtes la seule minorité à des kilomètres à la ronde, ça peut être un problème. Trevor Noah, dans son stand-up, avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idriss Elba qui aurait pu succéder à Daniel Craig. Il disait que les scènes d'évasion seraient nettement moins crédibles. Idriss Elba, James Bond, jumps off the bike, run. Ouais, je le renvoie. Donc Trevor Noah, dont son stand-up, il avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idriss Elba pour remplacer Daniel Craig en tant que James Bond. Et il disait que les scènes d'évasion, par exemple, seraient nettement moins crédibles ou réalistes. Idris Elba, James Bond, jumps off the bike, runs into a crowded town square. The bad guys are right behind him. He manages to shake them off, pops into a little alley, gets out on the other side, finds a crowded little marketplace, puts a scarf around his head, a fake beard, blends in with a group of monks walking by. The bad guys turn the corner. There is. Vous avez compris l'idée. Et en fait, il marque un point. C'est pas faux. Mais c'est du coup, si c'est vrai pour les noirs, c'est vrai aussi pour les blancs. Il y a donc besoin d'une diversité de profils pour s'adapter aux missions. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez infiltrer les Black Panthers ou Black Lives Matter, vous n'envoyez pas Tom Cruise ou Matt Damon, vous envoyez Lucky Stanfield ou Rachel Khan. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, même dans un contexte majoritairement blanc, personne n'est aussi invisible qu'un corps racisé. Mélanie, tu as vu Killing Eve de
ouais.
Phoebe Waller-Bridge.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens du début de la saison 2 où Eve, donc l'héroïne, enquête sur une meurtrière qui ne laisse aucune trace et surtout que personne ne remarque ? Ça te dit quelque chose au
Alors,
tout
attends,
début ?
Eve,
Sandra Oh.
Sandra Oh, oui.
Elle n'est pas seulement après Villanelle, elle enquête sur une nouvelle meurtrière,
une nouvelle
etc.
Meuf, ouais.
Et en fait, cette nouvelle meurtrière, elle pénètre dans les bureaux, dans les hôtels en pleine journée, elle empoisonne ses victimes, elle disparaît et personne ne la remarque. Et Eve, donc l'enquêtrice, réfléchit à haute voix et elle se dit que ça doit être un individu qui fait ses petites affaires, que personne ne remarque, qu'elle n'est pas importante, pas intéressante, invisible. Le genre de femme que les gens voient tous les jours mais ne regardent pas, bingo, c'est une femme de ménage, ou au moins, elle se fait passer pour une femme de ménage.
Ouais. Okay,
donc, il y a ce truc, en fait, effectivement, de toutes ces personnes racisées qui font les petites tâches et qu'on ne regarde pas dans les yeux et qui peuvent s'introduire à peu près où ils veulent. François Lupin, tu l'as vu ?
Oui, oui, c'est, la, c'est le même, même principe.
Voilà, c'est cette scène.
Il s'est passé pour un agent de sécu ou pour un...
Un livreur Uber Eats, Uber. Et il disparaît, en fait, dans une... Il a réussi à s'échapper dans une marée de livreurs.
Ils auraient dû plus exploiter ça, d'ailleurs, je trouve. Parce que finalement, les deux premiers épisodes, ils disent, voilà, c'est facile d'être un voleur quand on est invisible. Et il y a tout ce truc où je me suis dit, ouh, political, tu vois. Et en fait, très vite, il abandonne ce truc-là. Et
moi,
c'est
je
juste
trouve que cette série,
riche.
Elle tient pas si t'enlèves Omar, en fait. Je trouve que c'est dommage, ils n'ont pas assez exploité leur truc.
On fera un épisode Lupin, je pense.
La deuxième partie, tard, pour la deuxième saison.
Même au début, mais bon. C'est...
Dans le bureau des légendes, il y a Irina Mulhuil, une actrice française d'origine congolaise qui joue la mule, un personnage secondaire qui, si j'ai bien compris, parce que j'en suis qu'à la saison 1, gagne en importance au fil des saisons. Et de premier abord, elle inspire le respect, on ne va pas l'emmerder, mais elle est très discrète, elle n'éveille pas les soupçons, notamment parce que les gens qui lui ressemblent sont rarement en position
de pouvoir,
de décision, d'être nuisible, etc. En fait, toute cette histoire, tout ce que je viens de vous raconter, c'est une sorte de prétexte pour vous parler d'un roman que je viens de finir, American Spy, de Lauren Wilkinson. C'est sorti en 2019 et malheureusement, ça n'a pas encore été traduit en français. C'est un premier roman qui a été acclamé par la critique. Déjà, il faut faire un point couverture. On y voit la silhouette d'une jeune femme noire drapée dans le drapeau afro-américain, donc le drapeau étoilé mais aux couleurs panafricaines, rouge, vert, noir. C'est l'histoire de Marie, une espionne noire américaine qui va devoir mener une mission hyper complexe dans les années 80. Elle doit infiltrer un leader africain très charismatique mais aux intérêts contraires aux puissances occidentales, Thomas Sankara. Et le livre est particulièrement puissant. La première scène, elle est dans sa maison dans le Connecticut avec ses deux enfants. Un homme armé s'introduit dans son domicile. Ils se battent. Il essaie de l'étrangler, mais elle arrive à attraper son 9 mm et lui colle une balle dans la tête. Le chapitre suivant, elle est en Martinique, en voiture, et elle se plaint des embouteillages et des grèves.
Ça, c'est très, très réaliste. Ça. C'est tiré d'une histoire vraie, ça.
Là, je sursaute un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Marie est Martinican American. Les couleurs rouge, vert, noir, d'ailleurs, pour le coup, je me demande, c'est pas un clin d'œil, enfin, les gens comprendront. Mais en fait, elle va s'installer temporairement à Sainte-Anne, en Martinique, pour mettre ses fils en sécurité. Le roman, en fait, il est sous la forme d'une lettre au testament à ses deux fils. En gros, elle répond à toutes les questions qu'ils pourraient avoir à l'avenir si elle n'était plus là pour leur raconter leur histoire. Comment est-elle devenue espionne ? Elle travaille d'abord pour l'FBI, et puis ensuite, elle est recrutée comme prestataire temporaire par la CIA. Affectée à des missions de...
Oui. CDD, intermittent.
Mais en fait, ces deux missions, elle fait des petites missions comme ça pour la CIA. Elle explique qu'en fait, c'est le terme en fait, pour les agents.
Excuse-moi, tu as peut-être dit l'information, mais j'ai peut-être oublié. C'est une histoire vraie ou c'est une
fiction ? Non, c'est complètement fictif. Et rapidement, dans le livre, il est question des tensions et des contradictions en fait, que ça soulève. Faire partie d'une institution qui a toujours traité son groupe avec... sévérité, on va dire ça comme ça. Pour s'en sortir, elle disait à ses collègues, pour éviter toutes ces tensions, elle disait à ses collègues qu'elle ne se souciait pas de la politique. En parallèle, elle dit que c'est complètement ridicule, que personne ne devrait croire à cette réponse, mais qu'en face, elle avait des hommes blancs qui n'avaient pas une existence aussi politisée que l'existence d'une femme noire. La majorité du roman se déroule entre les États-Unis, la Martinique et le Burkina Faso. On y parle de néocolonialisme, de tiers-monde, de guerre froide, mais aussi de loyauté. Un des points forts de Marie, c'est sa binationalité. Elle parle français et elle approche certaines de ses cibles en se faisant passer pour une traductrice de l'ONU. Je ne sais pas si Jean Dujardin ou Daniel Craig auraient réussi à gagner la confiance de leaders panafricains. Des personnages
Jean Dujardin, vu son accent.
S'il fait une blackface, on verra dans le prochain OSS. Mais voilà, rapidement, en fait, moi, ce que je voulais soulever avec tout ça, c'est plutôt des questions de loyauté pour les agents racisés ou binationaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo de Manon Bril sur les femmes espionnes. Elle parle d'une femme qui s'appelle Martha Duncan, et qui était un agent de la CIA, mais binationale, panaméenne et américaine. Et elle s'est servie, en fait, de sa connaissance de la culture, enfin de son identité panaméenne, pour travailler au service des États-Unis et ensuite aider à renverser le dictateur en place à l'époque, Noriega. Donc c'est vraiment une question, en fait, de loyauté et de est-ce que c'est pertinent, en fait, pour une femme racisée, de poser la question de est-ce qu'une femme racisée peut être espionne, mais est-ce qu'une femme racisée devrait être espionne ? Je voudrais finir, en fait, avec une petite vidéo, un petit extrait, une campagne de recrutement des services britanniques, du MI6, et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
This person does not work for MI6. She doesn't deal with diverse cultures, different people, and delicate situations for a living. She doesn't instinctively read emotions and predict what someone might need. She doesn't use her natural ability to connect with people and motivate them. She isn't part of a team that's spurred on by a greater cause. No, the person you're watching doesn't work for MI6. But she could.
Mélanie, une réaction?
C'est intéressant, mais en fait j'étais hypnotisée par ce que tu disais, parce que je me dis Norman fait une vanne de merde nulle raciste, et toi tu lui réponds par un cours d'histoire. Je trouve ça tellement tellement toi, tellement Kevin.
Merci. Est-ce que t'as envie d'envoyer un CV au MI6 après avoir vu une femme light skin,
une femme noire? Ouais, faut le dire, parce que du coup les gens qui écoutent le podcast vont peut-être pas.
Donc c'est une femme noire qui fait des activités de la vie quotidienne. Non, j'ai pas envie, mais c'est parce que en fait avec le temps je suis en train de devenir une rouge, et je me dis je ne servirai jamais les intérêts des gouvernements occidentaux. Mais je trouve qu'elle est maligne, leur pub. Elle est maligne parce que voilà, tu vois qu'ils essayent de cibler, tu vois que ça pourrait marcher, et tu vois que en fait au final un peu comme James Bond, ils sont en train de continuer à chercher à être relevant, quoi, et à se dire on ne peut plus avoir que des hommes blancs dans nos rangs, donc que faire.
François, t'as un avis, toi?
Ouais, je suis un peu comme Mélanie dans le sens où c'est de la communication, tu vois. Après, je sais pas si cette pub reflète réellement la politique de recrutement.
C'est
réel
souvent ça,
du
dans la
MI6.
Com, ils te mettent des noirs, et en vrai, t'arrives dans les bureaux.
Ouais, c'est ça. Après, je trouve que c'est intéressant, parce que ça, c'est exactement sur ce que tu racontes depuis le début du sujet, quoi. C'est qu'en fait, l'idée finalement qu'on s'est faite de ce que c'est qu'un caméléon, de ce que c'est que quelqu'un qui passe partout, elle est totalement influencée par la fiction, en fait. Ouais. La vérité, c'est qu'on parle des noirs et des blancs dans la fiction, mais en règle générale, qui sait ce que c'est, à quoi ressemble réellement un agent secret? Et c'est ça, en fait, que tu interroges, et que le roman dont tu parles interroge, et c'est super intéressant.
Ils ont, c'est toute une campagne de pub. Il y a un autre spot comme ça où ça se termine par en secret, enfin secrètement on est comme vous. Et ça montre en fait des gens qui sont monsieur et madame tout le monde, et en fait il y a cette idée de tout le monde peut être un agent efficace. Et effectivement, dans une série comme Le Bureau des légendes, mais pas seulement, on voit aussi qu'il y a des mamies qui servent d'informateurs, etc. Enfin, il y a toute une question, en fait, de si on veut être un agent secret efficace, faut pas forcément, dans toutes les situations, débarquer en Lamborghini, costard Lanvin, dire mon nom c'est Bond, James Bond, c'est pas forcément...
Plus Daniel Craig, il est assez connu, donc en vrai, je le reconnais dans la rue, t'as vu, donc il peut pas être discret...
Bref, voilà, Mélanie, je suis assez d'accord avec toi. Cette réflexion m'est venue grâce à Norman, et donc je l'en suis très reconnaissant. Merci Tavo pour les travaux. Mais voilà, en conclusion, non, je sais pas si...
En conclusion, une étoile au spectacle.
Une étoile au spectacle, 5 étoiles pour la réflexion. Si ça se trouve, Norman, en fait, cherche à provoquer les femmes noires en leur disant « Vous pouvez pas, vous les Fatoumata, être des agents au service de la France et provoquer des vocations comme ça. » Je n'y vois pas d'autre explication. C'est tout pour moi.
Vu que comment vous êtes habillé, je pense que vous êtes au courant, mais les années 2000 sont revenues.
Yes.
Alors là.
Ah, casquette Lacoste jaune.
De retour, hein, back dans les bacs comme nous. On parle beaucoup en ce moment de Britney Spears avec le mouvement Free Britney, hashtag Free Britney, la lutte pour la fin de sa tutelle, etc. Mais pas seulement, il y a la mode, il y a vraiment la nostalgie, en fait, toute l'éthos des années 2000 qui sont de nouveau parmi nous. Hein, on n'échappe pas au cycle des 20 ans où à chaque fois la décennie d'il y a 20 ans redevient la mode. Et du coup, on nous parle de Britney, on nous parle de Paris Hilton qui fait son comeback, on nous parle de télé-réalité de l'époque, on nous parle de Kate Moss, des supermodèles, etc. Mais moi, je veux vous parler de la black culture des années 2000. Parce qu'à l'époque, les Noirs américains créaient des tendances qui étaient à l'époque jugées par la culture en général comme un peu ghetto, un peu moche, un peu transgressif, un peu bizarre, too much, quoi. Et au final, aujourd'hui, vous allez sur TikTok et vous voyez plus que ça. Blanc, pas blanc, noir, pas noir. Tout le monde utilise ces codes-là. Et donc, en fait, ces codes créés par les Afro-Américains dans les années 2000 infiltrent complètement ce grand retour des années 2020. Donc, comme dirait une grande philosophe, what's good? On va en parler. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup la pop. Mais j'ai quand même envie de dire que la musique qui était la vraie révolution de cette décennie, pour moi, c'était le R&B. Tant en termes de musicalité, quand je parlais de Britney, en fait, je pense qu'il y avait vraiment une opposition entre cette pop un peu aux yeux bleus, blonde, innocente, enfin toutes ces petites chanteuses qui représentaient un idéal féminin.
Et Christina Aguilera.
Voilà, qui était très. Jenny.
Excuse-moi.
Et sachant que Christina Aguilera après a fait son truc où elle s'est transformée en chanteuse à voix noire.
Comme Britney quand elle a fait I'm a Slave for You, produit par Pharrell, tout ça.
Star Trek. Tellement de trucs à dire sur I'm a Slave for You. Déjà, annonce l'Amérique d'Obama, quoi.
Bref. Titre frérot déjà, ouais, merde.
Mais voilà, ouais, y a tellement de choses à dire, je pense, entre la pop et les R&B des années 2000. On va pouvoir en parler. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la black culture, même si ça avait ce truc un peu sulfureux de dire « Ah, ça correspond pas », je vais beaucoup parler des femmes, hein, ça correspond pas à la féminité hétéronormative, blanche, classe, qui vit dans les suburbs et la femme respectable, et ben, malgré ça, ça a influencé tout, en fait. Ça a influencé la musique, mais aussi la mode, la beauté, la télévision, enfin les séries, les films, c'était partout en fait. Donc on va commencer par la mode. La mode des années 2000, ce qui marchait vraiment beaucoup, c'était les vêtements baggy. Donc je sais pas si vous vous souvenez, moi, ça va revenir de toute façon, hein, mais les vêtements qui traînent par terre, vous vous souvenez les petits trous qu'on avait en bas dans les pantalons parce que ça traînait par terre, bah voilà, hein. Donc les pantalons qui traînent, les filles qui portent des vêtements de mecs comme Missy Elliott, et les superpositions aussi, il y avait beaucoup de superpositions. Donc les influences, les Destiny's Child, je pense qu'on peut peut-être revenir dessus. Les Destiny's Child, qui étaient vraiment en tout cas la féminité noire dans la pop R&B. Nous, c'est vrai, en France, on les connaissait, mais on n'imagine pas à quel point aux États-Unis elles étaient énormes, quoi. On parle aussi beaucoup de Aaliyah, qui était une chanteuse décédée en 2001, qui en fait avait aussi un vrai impact autour de la mode et des tendance en fait, mode de l'époque. Et puis Missy Elliott, bien sûr, on est obligé d'en parler. Donc Missy Elliott, grande chanteuse, compositrice, rappeuse des années 90 et 2000, qui avait un côté très tomboy, très garçon manqué. Voilà. Donc ces influences-là, en fait, on les retrouve aujourd'hui, mais sur des corps qui ne sont justement pas ces femmes-là, quoi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Il y avait aussi, bien sûr, les années 2000, c'était les paillettes, c'était les pantalons taille basse. Quand on s'asseyait, on voyait l'arrêt, on voyait le string.
Voilà.
Il y avait aussi beaucoup de bling, de paillettes. On avait des paillettes sur les téléphones portables.
Il y avait des petits trucs, tu sais, les petites incrustations, les diamants en plastoc incrustés
tous
sur
les
la
jeans, ceinture.
J'ai une question, je peux la poser maintenant?
Pose là.
Oui. Moi, est-ce que en France, parce que moi, j'habite pas en France à ce moment-là, pas en France hexagonale, j'ai l'impression que ça, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que ça a pas percé partout pareil. Moi, j'ai
été à
Rennes.
Alors, il y a des régionalismes.
Voilà.
Toi, est-ce que t'habitais en France aussi? Est-ce qu'à Istres, il y avait
non,
ça?
Ce que je veux dire, c'est que à Rennes, début des années 2000, quand je suis arrivé, il y a pas de meufs qui s'habillent comme ça. Il y en a à Fort-de-France. Quand je vais dans d'autres villes en France, à Paris, je vois ça. Mais ouais. c'est pas partout.
Les ramifications arrivent pas partout. Ouais, mais moi, je viens du sud. J'ai grandi dans le sud. Autant te dire qu'on avait.
En fait, il y avait que chez moi à Paris où il y avait vraiment des vrais quinri à Châtelet, t'allais, t'avais ton baggy, Marité, Françoise Girbeau, etc. Non, bref, j'ai trop vécu ça.
Donc, ouais. Pour continuer, on avait les joggings en velours. Alors moi, j'avais pas les sous pour m'acheter le jogging en velours. Mais le jogging en velours, on l'a beaucoup vu sur Paris Hilton. Mais il faut savoir que l'origine, c'est Babyfat. Babyfat, la marque de Kim O'Reilly Simmons, la femme de Russell Simmons. Et donc, c'était voilà, le jogging peau de pêche qui a été popularisé par Alicia Keys, notamment sur
J-Lo dans le clip I'm Real avec Ja Rule.
Ouais, ou c'est pas elle qui chante d'ailleurs.
Oui, c'est Ashanti.
Non, c'est Ashanti qui chante.
Ouais.
Et on peut aussi parler en termes de bijoux des plaques avec les noms le nom, genre une plaque avec Mélanie ou Kevin ou François.
Ouais, le petit pendentif.
Ouais, le gros truc.
Ça, c'est jamais parti, hein, vraiment.
Ouais, mais là, tu vas voir, là, ça va comeback de ouf.
Mm.
Et je pense aussi qu'il faut souligner que le sport a énormément influencé ces trends. Vous voyez, là, c'est très dans l'exagération, et c'est ce que tu dis, Kevin. En fait, c'est pas arrivé partout, parce que dans les lieux, en fait, plus mainstream, où la black culture n'avait pas autant de prégnance, ouais. Et ben en fait, c'était jugé comme étant un peu chelou, quoi.
Enfin, manque de goût.
Ouais, vulgaire, en fait. Enfin, beauf, quoi, truc de beauf. Et voilà. Donc, en termes j'ai envie beaucoup d'en parler, parce que je trouve que c'est assez intéressant en termes de physique. Le modèle physique des années 2000, c'était le modèle héroïne chic. Je ne sais pas si vous en souvenez, Kate Moss, qui était maigre comme un clou, et qui prenait de la drogue, qui fumait des clopes, machin. Et c'est vrai que, pour le coup, en y réfléchissant aujourd'hui, je me dis, on ne se rend pas compte à quel point ce modèle-là, qui était érigé partout dans les couvertures de magazines et tout, était construit en opposition, justement, au corps noir, en fait, au corps des femmes noires, qui pour la plupart, en fait, ne collaient pas à ce stéréotype-là, quoi. Et donc, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'entre-temps, il y a eu les années 2010, et ce qui était jugé comme pas désirable, parce que ne collant pas au modèle de l'héroïne chic, à savoir les grosses lèvres, les grosses fesses.
Excuse-moi, ouais. Héroïne chic, on parle de l'héroïne.
On parle de l'héroïne.
La drogue.
On parle de la drogue.
Ouais. Après, on accuse le rap de, on accuse le rap de rendre, de glamouriser le deal,
c'est,
etc.
C'est le terme pubard, en fait. Hein. C'est vraiment, d'accord. C'est comme le porno chic et tout. L'héroïne d'accord. chic, c'est la fille super maigre, anorexique, qui prend de l'héroïne pour rester mince et défiler sur les catwalks.
Moi, je vais inventer le casual crack.
C'est-à-dire que tu prends du crack, mais dans tes vêtements.
C'est ça, c'est un mec qui prend du crack, mais au calme, tu vois, avant sa petite réunion de 13h.
Ah, dans ce sens-là, ok.
À brut. Tu vois.
Donc, pour reprendre, l'héroïne chic, un style de physique, un style de féminité. Et aujourd'hui, le style a complètement changé, notamment grâce ou à cause des Kardashians, qui ont mainstreamisé en fait le physique grosse lèvres, grosse fesses, qui est passé en fait d'un truc honteux ghetto, qui était genre je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les films à l'époque, il y a plein de films, notamment de teen movie, où les filles elles disent oh, est-ce que cette robe fait que mon cul a l'air gros,
j'ai un énorme cul,
ouais.
Arrête Cynthia, voilà.
Non. Ah, non ça va, t'inquiète pas. Et du coup, moi, ce qui m'a fait tilter, c'est que je me suis dit, mais qui est-ce qui a parlé pour la première fois, pas pour la première fois, mais en tout cas, dans la pop culture, de la mode des gros culs? Et bien, c'est Sir Mix-a-Lot en 1992 avec la vidéo Baby Got Back. Je ne sais pas si on peut peut-être l'entendre. I mean, her butt, it's just so big. I can't believe it's just so round, it's like out there, I mean, gross. Ce qui est génial, c'est que les deux filles qui parlent dans le clip, c'est au début du clip où en fait il y a deux blanches qui regardent une noire qui bouge en disant « Oh là là, mais quel gros cul, c'est horrible et tout ». Et les filles s'appellent Becky. Enfin, il y en a une qui s'appelle Becky.
C'est de là que vient...
Que vient le même Becky.
Ouais, j'avais fait un article là-dessus, sur Slide, sur Becky, d'où vient un peu l'insulte. Et ça, c'est en grande partie de là, ouais. C'est la première trace, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Dans la pop culture de Becky en tant que le stéréotype de la femme blanche qui va te juger, quoi.
Ouais. Et ben, comme on ne peut pas passer la chanson en entier, peut-être que François, tu as envie de nous faire un petit freestyle.
Non, mais c'est marrant parce qu'en plus ce clip là il a un héritage culturel de fou. On se rappelle du son Nicki Anaconda qui reprenait le son qui le samplait. Mais même là, il y a pas longtemps, il y a un rappeur de Houston que j'aime beaucoup qui s'appelle Beat King qui a également qui a repris en fait le clip, tu sais, avec le, parce que sur Mix-a-Lot il rappe sur deux ce qui ressemble à des dunes de sable, mais qui sont en fait deux énormes fesses. Ouais. Et en gros, il est habillé, il a un chapeau noir et un grand manteau, etc. Et en gros, Beat King, il a repris ce clip-là, il s'est remis sur des grandes fesses, etc.
Ouais.
Et ouais.
Toi qui es un grand fan de Friends, il y a ça aussi dans une des dernières saisons,
oui,
où tu sais, Rachel et Ross, on chante ça devant leur gamine.
Ah. Et tous les commentaires YouTube, c'est ça, genre, oh, Emma, ça a dû la traumatiser quand Ross et Rachel ont chanté ça devant elle. Et j'étais là, genre. Pardon ?
Des bars.
Et c'est là que tu te rends compte que c'est le truc qui est devenu mainstream et a été réapproprié au global, quoi. Donc, 1992, hein, Baby Got Back. Hein, donc, okay. Visionnaire, prophète, tout ce que vous voulez. Hein. Il avait prévu les Kardashians. Bref.
Il avait prévu les grosses fesses, la victoire des grosses fesses.
Ouais.
J'ai aussi envie de vous parler un peu de toutes les tendances make-up que les femmes noires ont lancées dans les années 2000 et qui étaient considérées comme ghetto, ratchet, vulgaire, et qui aujourd'hui sont partout, à savoir les ongles. J'ai envie d'en parler des ongles longs qui ne correspondaient pas à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les French manicures, c'était vraiment les trucs, les ongles couper un peu court, voilà. Et maintenant, si t'es une influenceuse et que t'as pas tes ongles, bah allô quoi. Enfin,
t'as raté ta vie.
T'as raté ta vie, tu vois. Les fossiles, donc le nail art avec sur les longs ongles, donc Cardi B, toutes les meufs qui font du nail art sur Instagram. Et peut-être qu'on peut le voir aussi, mais je pense que c'est important de parler des perruques. Parce qu'on parlait beaucoup des perruques des femmes noires à l'époque comme quelque chose d'un peu honteux. Genre, les femmes noires, elles n'ont pas de cheveux en dessous. elles utilisent des perruques, ça ne sent pas bon.
Là, tu parles des blancs qui disent ça à des noirs.
Ouais.
Parce qu'au sein même de la... Excusez-moi, hein, mais au sein même de la communauté noire, le débat sur est-ce qu'il faut ou pas mettre des
guerre civile.
C'est acceptable.
Ouais.
Je m'en mêle pas.
Moi, j'ai pas d'opinion sur la question.
Parce que vous êtes des mecs. Donc, c'est bien. Parce que effectivement, comme tu le dis, François, il y a beaucoup en fait de misogynie et de sexisme des hommes noirs envers les femmes noires qui disent qu'elles n'ont pas des vrais cheveux et qu'il y a toute une...
Moi, je parle des femmes noires.
Moi, si je parle des femmes noires entre elles. Hein,
t'as pas vu les débats sur Twitter? Là, il y a une meuf qui a dit « Ah, moi, c'est mort, jamais je mets une wig à mon mariage, cheveux naturels à mon mariage. » Et t'as que des meufs, toutes des femmes noires qui sont arrivées en mode « Mais t'es folle, t'es pas... Au contraire, quand t'es à ton mariage, tu veux mettre une wig parce qu'il faut que tu sois sur ton 31, etc. Ouais. Enfin, c'est un débat qui déchire tout le monde, quoi.
Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'était vraiment un débat intracommunautaire. Et aujourd'hui, les femmes blanches, les influenceuses et notamment l'une des personnes les plus célèbres au monde, donc Kylie Jenner, a vraiment popularisé cette tendance des perruques, en fait, comme un truc qu'on porte tous les jours, quoi. Donc voilà, je voulais aussi parler des couleurs de cheveux. Je trouve que ces couleurs de cheveux, Rihanna qui portait les cheveux rouges en 2009, il y avait aussi les couleurs de blond, c'était des couleurs qui étaient quand même très fortes et qui étaient assumées par des femmes noires. Et aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus assumé aussi par des femmes blanches. Donc voilà, je pense qu'il y a, vraiment eu un switch. Enfin, c'est vraiment, je veux appuyer sur ça, sur ce truc qui était réservé à un certain type de féminité, qui maintenant, aujourd'hui, est devenu complètement mainstream, quoi. Et du coup, juste pour terminer, je ne sais pas si on peut voir Kylie Jenner, parce que j'ai quand même mis... Voilà, je voulais parler de Lil' Kim. Parce que Lil' Kim, c'est quand même la rappeuse des années 90-2000 qui a eu un immense héritage. C'est-à-dire que toutes les rappeuses aujourd'hui lui doivent quelque chose. Que ce soit Megan Thee Stallion, Cardi B, Nicki Minaj. Enfin, il y a vraiment un truc sur la manière dont... Bon, premièrement, elle exprimait sa sexualité. Elle était hyper trash dans ses lyrics. Enfin, elle amenait vraiment une féminité qui était justement complètement en opposition avec cette féminité qu'on essayait de nous vendre en parallèle de l'époque Bush. Le côté « Oh là là, je suis une gentille petite fille, mais regardez quand même, je suis un petit peu coquine. » Non, Lil' Kim, elle y allait à fond. Et,
elle n'avait pas un anneau de virginité comme Britney Spears mariage, pour attendre le mariage. Quoi.
Non, Lil' Kim, elle n'était pas là pour beurrer les sandwichs. Et en plus, il y a vraiment un truc... que j'aime beaucoup, transgressif, qui à l'époque la mettait complètement au banc en fait de pas mal de choses, parce qu'elle aimait beaucoup les designers, en fait elle aimait beaucoup les vêtements de marque et les marques, les Chanel, Dior.
Elle a fait une photo iconique, tu sais, avec une espèce de combinaison Vuitton, oui. Et le capuchon Vuitton, tu sais.
Ouais, c'était vraiment une fan de ça. Et en fait, elle était jamais, il y avait une relation un peu de amour-haine, les marques que les marques avaient envers elle, parce que il y avait un côté, mais attends, tu cheapes un peu, notre marque devient moins classe,
moins
parce que tu la portes
moins,
en fait.
Moins Catherine Deneuve, likely. Ouais.
Et aujourd'hui, en fait, comme maintenant ces marques recherchent justement ce côté un peu, on se décaler pour pas revendre tout le temps la même chose, refaire la même soupe, ils se tournent vers des trucs qu'elle faisait, des manières de porter les vêtements. Elle se faisait tout le temps épingler par la fashion police dans les émissions et dans les magazines qui disaient « Ah, regardez comment elle est vulgaire et tout », et aujourd'hui, même, tout le monde s'habille comme elle, quoi.
Même au sein de la communauté noire et au sein des rappeuses, elle détonnait, parce que les rappeuses, les grosses rappeuses qu'on avait avant Lil' Kim, c'était des meufs comme
MC Light,
Lady of Rage, Queen Latifah, Salt and Peppa, donc des meufs qui étaient au contraire dans une démarche de regagner une forme de respectabilité. Ouais. Tu vois, Queen Latifah, son premier gros morceau, c'est Who You Calling a Bitch, UNITY, en mode voilà, moi je suis une femme, je suis respectable, il faut que les brothers nous respectent, nous les femmes, tu vois. Donc c'était des féministes dans ce sens, on va dire, assez classique du terme. Et elle, c'est la première à arriver à dire non, je suis des bites et je suis féministe, et alors, il y a quoi?
Ouais, et clairement, quand aujourd'hui on dit oh là là, Kylie Jenner, c'est super, elle met des perruques et tout. Enfin, Je suis désolée, mais voilà, c'est les femmes noires qu'on pionnier le truc. Et donc voilà, et je trouve qu'il y a un autre truc intéressant, mais c'est un point un peu plus qui ouvre sur tellement de choses. C'est par exemple, notamment dans les tendances make-up et tendances cheveux, tendances mode, quand ça devient grand public. Quand, par exemple, on se dit « Ah, ça y est, on peut porter des perruques » ou « Ah, ça y est, on peut porter les ongles comme ça » ou alors les femmes noires ont utilisé le contour. Bon, je sais que là, je parle loin pour vous parce que...
Le contouring ?
Le contouring, voilà, le fait d'utiliser des produits pour faire ressortir différentes zones du visage et tout. Et bien après, une fois que c'est devenu mainstream, les marques, quand elles ont commencé à produire des kits de contouring, il n'y avait pas les couleurs de peau des femmes noires. Donc en fait voilà, on va chercher quelque chose dans la communauté, on dit putain c'est bien, c'est créatif, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça avant, et puis après on crée un produit qui devient mainstream, mais on exclut la communauté qui l'a créé. Donc il y a un vrai système en fait de reproduction comme
expropriation
ça.
Expropriation culturelle.
Ouais, c'est un peu ça quoi. C'est en fait votre truc, il est bien, hein. Bah venez on l'adapte, mais par contre vous dégagez quoi. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Quand vous voyez tous ces TikTok, tous ces mèmes, tous ces Instagram sur les années 2000, n'oubliez pas que les Noirs étaient là avant. Les Noirs ont créé, les Noirs ont popularisé. Et aujourd'hui, en fait, tout ça revient sans le stigma qu'ils portaient dans les années 2000. Mais ce serait bien, en fait, que les pratiques culturelles noires ne soient pas jugées ghetto, vulgaires, pour être réadaptées des années plus tard comme quelque chose de cool et de mainstream. Je sais pas. Moi, c'est ce que j'aimerais. Et c'est tout pour moi.
Oui, bien.
Alors, moi, j'ai été très affecté par la mort de DMX, donc le rappeur. C'était un de mes rappeurs... C'était un de mes rappeurs préférés. Sa musique m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagné. Dans des moments difficiles ou dans des moments moins difficiles aussi. Et puis bon, voilà, j'ai un peu réfléchi à comment j'allais parler de lui. Je me suis dit, est-ce que je me joins au concert d'éloges funèbres de gens qui disent à quel point il était important pour la culture et la musique hip-hop, etc. Et puis bon, je me suis dit, voilà, tout va être dit et peut-être même mieux que moi je pourrais le dire. Donc je me suis dit, tiens, je m'intéressais à DMX l'acteur, parce que il a eu une carrière au cinéma qui est assez intéressante. Bon, les trois quarts des films dans lesquels on le connaît, c'est surtout des films d'action que vous avez peut-être vus dans les années 2000, Cradle to the Grave,
Roméo
doit mourir avec Jet Li, des trucs comme ça. Il a aussi fait quelques caméos dans des sketchs comiques qui sont même pas arrivés en France. Il a fait un caméo notamment dans une série qui arrive en France qui s'appelle Bienvenue chez les Huang. Est-ce que vous connaissez cette série?
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Tout à fait.
Fresh off the boat
en anglais, voilà.
Une famille asiatique, voilà. Taïwanaise, chinoise,
c'est ça,
en Floride.
L'histoire vraie de Eddie Wong, qui est en fait un chef cuisinier super connu aux States, etc. Et il y a cet épisode où DMX fait un rôle en tant que lui-même, un caméo, et il parle de la façon dont il cultive des orchidées. Il dit qu'elles ont besoin d'attention.
J'ai vu la vidéo, elle était en fait, partout sur Instagram.
Voilà,
ça vient de Fresh Off the Boat.
Voilà, quand DMX est mort, en fait, cet extrait est ressorti où DMX parle de la culture des orchidées et de comment, voilà, parce que ça illustre très bien ce personnage qui était écorché vif à la fois, tu vois, à la fois hyper dans l'hyper virilisme et qu'on avait l'impression que rien pouvait l'atteindre et en même temps qui avait aucune hésitation à montrer ses parties les plus vulnérables, c'est ça. Mais moi, pour moi, son rôle le plus intéressant, et c'est pour ça que j'ai maté ce film-là, c'est son premier, justement. C'est un film qui est sorti en 98 et qui s'appelle Belly. Donc Belly, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui font en gros des braquages et qui vendent de la drogue pour devenir riches. Donc c'est vraiment le hood movie par excellence. On a Sincere, je sais pas comment je vais le prononcer pendant l'épisode, ça va être un peu galère, mais en gros sincère. Il est sincère quoi, qui est interprété par Nas, et on a donc Bundy qui est interprété par DMX. Donc faut la dynamique du film, en gros, c'est que ces deux personnages, ils représentent un peu le yin et le yang. Sincere, c'est le mec qui est calme, spirituel, il s'occupe de sa famille, il lit des auteurs afrocentristes, il se pose des questions existentielles. Donc ça, évidemment, c'est Nas, puisque forcément, son personnage reflète, si vous voulez, la réelle personnalité, on va dire, de Nas, le rappeur. Et à côté, on a Bundy, qui est son yang, qui est le criminel, le thug, impulsif, avec un cœur froid, nihiliste, infidèle avec sa meuf, tout ce que vous pouvez imaginer comme type de défaut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, ils roulent ensemble depuis l'enfance, et puis leurs chemins vont, on va dire, se séparer, s'éloigner. Ils vont chacun trouver, je vous spoil un petit peu, mais ils vont chacun trouver leur rédemption, chacun d'une manière différente. Nas, il va se tourner vers l'Afrique. En fait, il y a un moment où il va dire à sa meuf, j'en ai ras le cul de la vie de gangster, etc. Je veux qu'on parte en Afrique. Elle va dire, ah bon, mais l'Afrique, c'est loin. Et lui dit, oui, mais je pense que c'est la terre mère et qu'il faut qu'on aille en Afrique. Après, à un moment, il revoit Bundy, ils sont dans un café, il fait, I'm going to Africa. Et DMX, il fait, oh yeah, you're going to Africa? Il fait, yeah, Africa. Ok, well, man, good luck for Africa. On saura jamais dans quel pays.
Dans quel pays,
on saura jamais
dans qui.
C'est ça, mais tu sais, pendant tout le truc, on saura jamais dans quel putain de pays il va. Et à la fin du film, il fait genre, I went to Africa. That was beautiful. Africa. Merci, Nas. C'est Nas qui a co-scénarisé le film, donc franchement, shame on you.
Et son père a vécu en Afrique et tout.
Mais oui, il est bien sûr. Le gars, il n'est pas d'Afrique. Foutu de nous dire, est-ce que c'est Afrique subsaharienne?
Après,
au moins
c'est peut-être une note d'un producteur qui lui a dit, non, mais attends, les gens, ils connaissent pas les pays d'Afrique.
Je sais pas, Congo, ouais, les gens ils voient que c'est pas en Europe.
Voilà, tu dis Sénégal, j'en sais rien moi, au moins une zone géographique, Afrique du Sud, Afrique centrale. Non, Africa, I'm going to Africa. Ok mec, très bien. DMX lui va trouver sa rédemption dans la religion. Alors en fait il va être, au moment il va aller en prison. Et puis en sortant de prison il va être engagé par une organisation bizarre. On saura jamais qui c'est, on sait juste que c'est des blancs chelous. Et en fait il va être recruté par cette organisation pour tuer un prédicateur, un révérend afro-américain qui en fait ne doit absolument pas prononcer un certain discours qu'il doit prononcer devant une grande assemblée. Et donc en fait on va lui dire, écoutez, vous allez infiltrer cette organisation religieuse et vous allez tuer ce mec avant qu'il donne son fameux discours. Et en fait, en infiltrant l'organisation, finalement, il va trouver une sorte de réel éveil spirituel et religieux, et il va sauver finalement sa propre âme de ce cycle de violence dans lequel il est pendant tout le film. C'est drôle de voir d'ailleurs que même dans un film de divertissement, dans un film de gangster assez classique, il faut qu'il y ait un sous-texte politique, il faut qu'on parle de l'afrocentrisme, il faut qu'on parle du retour, voilà. Et évidemment, quand je vois ce scénario là avec le mec qui est engagé pour tuer un révérend noir, je peux pas m'empêcher de penser à des films comme Black Klansman ou Judas and the Black Messiah. Enfin, c'est l'éternel scénario.
Prochain épisode.
Ouais, c'est l'éternel scénario des leaders noirs qu'il faut assassiner par derrière, quoi. Bref, je vous le dis d'emblée, Belly, c'est pas un très bon film. C'est pas un très bon film. J'ai pas passé un super moment en regardant Belly. L'intrigue manque de rythme. Elle est pas forcément toujours crédible. Le scénario, voilà, est assez faible. Il y a un ventre mou, on va dire, qui dure beaucoup trop longtemps pour que ce soit juste, voilà, des failles scénaristiques. Et en fait, il a été flingué par la critique au moment où il est sorti. Vraiment, il a été étrié par tous les magazines. Donc,
fin des années 90, c'est ça ?
Il est sorti en 98. Ouais. Okay. Et donc, voilà, il a vraiment été étrié par la critique. Mais il est devenu culte, en fait, avec le temps, grâce au DVD, grâce à Internet et grâce à la culture, avec un grand C, vous voyez de qui je parle.
The culture.
Belly, si vous allez sur Rotten Tomatoes, le film, il a un score par la critique, je veux dire, de 16%. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi le score par le public?
86%.
87%. Voilà.
Donc ça, c'est fort. Comment t'as fait? Tu savais, hein? T'as
non,
triché.
Je savais pas.
Vas-y.
Vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'il y a un écart du coup? Ouais.
En même temps, le film le plus liké sur Rotten Tomatoes, c'est Paddington 2 là en ce moment. Hein.
C'est quoi?
Paddington 2.
Ah, le l'ours là,
le petit
ouais,
l'ours.
Il y a quelqu'un qui a mis une mauvaise critique sur Citizen Kane et du coup Citizen Kane s'est fait têche et maintenant c'est Paddington 2.
Mais voilà, en gros, le film est devenu culte avec le temps. D'ailleurs, il y avait un retour au cinéma, une ressortie en cinéma aux États-Unis qui était prévue en fin 2019. Je ne sais pas si ça a eu lieu finalement avec la pandémie, mais c'est pour vous dire que le film a un héritage qui est de plus en plus fort et de plus en plus visible dans le cinéma américain. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi voilà, le film était intéressant et pourquoi j'ai kiffé malgré le scénario un peu faible là. La première chose qui est vraiment forte quand on regarde Belly, ne serait-ce que sur la fiche Wikipédia, c'est son casting.
Ouais.
Le réalisateur du film, c'est Hype Williams. Donc, un réalisateur de films super, super, super connu.
Il fait des clips, ouais.
De clips.
C'est un réalisateur, oui, excusez-moi, j'ai dit film.
Ouais, t'as dit film.
Je voulais dire de clips, excusez-moi. Ouais. C'est un réalisateur de clips de rap, donc super connu. Il a fait les premiers clips de Missy Elliott, il a travaillé avec Puff Daddy, il a fait le clip de California Love de Tupac, vous savez, le clip
California
en mode.
Mad Max en fait.
Exactement, à la Mad Max avec Dr. Dre. Budget de malade. Vous savez qu'ils ont pris le vrai Thunderdome, le vrai Thunderdome qui a servi au film Mad Max. Ils ont récupéré le Thunderdome pour s'enjailler avec Dr. Dre, etc. Incroyable film. Il a fait le clip de No Scrubs de TLC.
Ah ouais.
Vous vous souvenez dans les années 2000 quand tous les clips de rap et de R&B il y avait des fonds colorés monochromes et les rappeurs devant.
Ouais.
Ça vous dit quelque chose? Notamment voilà le clip de Gold Digger de Kanye West par exemple.
Il a les mêmes contours que toi là, un peu Kevin.
Ouais, mais les siens sont frais.
Les siens sont frais et sont correctement machinés contrairement à ceux de Kevin. Le clip de Check On It aussi de Beyoncé, vous vous souvenez? Il y avait des fonds monochromes et vous savez l'écran il était splitté en trois. Vous savez vous avez une bande horizontale au milieu avec les yeux de Beyoncé par exemple et derrière
c'est
vous aviez
orange.
Une image.
Non.
Ouais, non, mais des trucs comme
c'est
ça, ça changeait.
C'est vrai que maintenant, c'est daté, ouais. Mais ouais
tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Cette esthétique qui a, en fait, été omniprésente dans les années 2000 dans le rap et à l'R&B, c'est Hype Williams qui l'a créé. Il a fait plein d'autres clips beaucoup plus récents. Il a fait mon clip absolument préféré de Beyoncé qui s'appelle Blow, vous savez, le
dans
clip
l'album
en mode...
de 2013.
Exactement, où elle fait du roller, etc.
Avec Solange.
Exactement, et les éclairages à la Euphoria que je kiffe. Le clip de Drunk in Love aussi, c'est lui. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'en 98, Hype Williams est un génie visuel et créatif. C'est une superstar du clip de rap. Mais c'est un total débutant au cinéma.
Comment tu le classes par rapport à Chris McCary?
Bah, c'est marrant parce que j'avais envie de dire que c'est un peu le Chris McCary américain.
Ouais, non.
Que Chris McCary est le Hype Williams.
C'est pas gentil pour Hype Williams.
Je trouve toujours l'intégralité de mes amis trop dur avec Chris McCary. Mais okay. Ça fera l'objet d'un sujet dans le futur. Mais en gros, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, Hype Williams, il arrive sur ce tournage, si vous voulez, en 98. C'est déjà une superstar du clip de rap, mais c'est un total newbie parce qu'il.
En réel.
Voilà, en réel de cinéma. Et c'est deux trucs très, très, très différents qui vont en fait lui causer des tas de problèmes. Le film, ça va être une usine à gaz. La production, ça va être un cauchemar. Il va niquer tout son budget sur les premiers tournages. Le tournage va être un cauchemar et on lui laissera plus jamais faire d'autres films. Donc Belly, c'est son premier et son dernier long métrage. À côté de lui, Hype Williams, il va former une sorte de duo créatif avec une femme très importante pour la culture qui s'appelle June Ambrose. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom?
Nope.
Mais elle qui est un peu la mode, c'est la styliste de Jay-Z notamment. C'est une costumière iconique qui a également émergé aux côtés justement de Hype Williams dans les années 2000, dans les années 90, excusez-moi. C'est la costumière notamment des premiers clips de Missy Elliott. Vous vous souvenez du design?
C'est quoi le nom de ce clip? C'est Fly? Non, c'est...
Ça, c'est She's a Bitch,
She's
je crois.
A bitch.
She's a bitch, tu sais. Donc voilà, le fameux costume en sac poubelle gonflé d'air de Missy Elliott.
Qui a été parodié et mémé.
Voilà, ça, c'est elle. Le fameux clip de Suck It To Me, vous savez, ou Suck It To Me Like You Want To, ou la tenue d'extraterrestre, etc. Tout le délire spatial.
Est-ce que c'est lui aussi qui faisait des clips pour Busta Rhymes?
Tout à fait.
Un peu chelou.
Ouha, c'est lui.
Voilà,
Put Your Hands When My Eyes Can See aussi, je crois que c'est lui. Donc totalement, c'est totalement le même réalisateur. Et donc c'est June Ambrose voilà, qui a participé au génie créatif de Missy Elliott, qui a complètement, vous savez, redéfini l'image de la rappeuse. Dans les années 90, c'est à elle qu'on doit ça. C'est également à elle qu'on doit la fameuse période dans les années 90 de la Shiny Suit Era. Vous savez, cette période, comme dans le clip de Mo Money, Mo Problems de Biggie par exemple, où
mais
tous
ça,
les rappeurs.
Mais ça, c'est les clips où t'as l'impression qu'ils sont devant une rap à fromage là, où tu rappes le pour faire du gruyère râpé. Et tu vois comment c'est à l'intérieur?
Oui, tu parles des néons.
On dirait qu'ils sont dans des trucs comme ça.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis tu sais, ils ont souvent des jumpsuits en une pièce ou alors des grands costards. Et en gros, c'est Ils sont souvent très brillants, justement, ces costumes. Et donc, cette période très bling-bling du rap qui a été à la fin des années 90, qui était dominée par Bad Boy et Puff Daddy, on l'a appelée la Shiny Suit Era. Parce que tout le monde avait...
Tu faisais partie des gens qui disaient qu'il ne fallait plus employer le mot bling ou bling-bling.
C'est vrai. Mais là, comme c'est comme on est dans les années 90,
c'est dans le contexte.
On est dans le bon contexte. Donc voilà, la Shiny Suit Era, c'est à June Ambrose qu'on la doit. Les fameux costumes de TLC, justement, dans le clip de Scrubs, c'est aussi à June Ambrose qu'on la doit. Donc, comme je vous dis.
Ah, c'était une bad bitch.
Ah ouais, et c'est toujours une bad bitch. Et donc June Ambrose, Hyperliance, bête de casting. Dans le film même, dans les acteurs, évidemment, on a Nas qui est une grande tête d'affiche. On a T-Boz qui est une des trois membres de TLC qui joue la copine de Nas. Là, la scène que vous voyez à l'écran, c'est celle où elle fait « But we are going to Africa? Really? But it's far away? » Il fait « No. » Go to Africa. On a également Method Man. On a des apparitions également de Sean Paul et Mr Vegas.
Il y avait de la star. Hein.
À un moment, ils vont. DMX va en Jamaïque dans le film et du coup, voilà, ils sont dans une boîte de nuit. Il y a Sean Paul et Mr Vegas, etc. Il y a une rumeur comme quoi Jay-Z devait être dans le film. Il y a LL Cool J dans la BO. Il y a D'Angelo. Il y a Crème du rap si vous voulez dans la BO du film
tout
aussi.
Tout le monde est d'accord.
Donc pour vous faire simple, Belly c'est un peu un screenshot de la pop culture noire de la fin des années 90, si genre il fallait faire une sorte de pot-pourri de tous les gens qui étaient cool, intéressants et influents à l'époque, on pourrait montrer Belly. C'est un peu comme si dans 10 ans je montrais à quelqu'un Black Panther par exemple en disant voilà, ça c'est tous les gens qui étaient en train de tous les gens qui étaient en train de pop à l'époque et qui se connaissaient tous les uns les autres et qui se faisaient des big up, des renvois d'ascenseur et qui travaillaient ensemble. Et ben voilà, c'est Belly, c'est ça pour les années 90. Et au milieu de tout ça, il y a notre pote, il y a DMX, donc total inconnu du grand public en fait à l'époque. Moi, quand je regarde Belly, je m'attends à voir une star du rap. Vous savez, ces films avec des stars du rap qui s'essayent un petit peu à l'acting. Vous savez, en dilettante, quoi. En mode, ouais, machin, voilà. T'es une star du rap, donc forcément, tu vas avoir des opportunités professionnelles. On va te proposer de faire des films. Donc, tu vas prendre le chèque, tu vas accepter, tu vois. Donc, je m'attendais un peu à voir ça. Et en fait, en me renseignant, je vois qu'en fait, non. L'année où Belly sort, en fait, DMX n'a pas encore sorti d'album. DMX est un total inconnu. La vraie tête d'affiche du film, c'est Nas.
D'accord.
Donc le film sort avant le premier album de DMX, It's Dark and Hell is Hot. L'album va faire triple platine, va faire de DMX une quadruple platine, je crois, à une époque où il fallait lever ses fesses de son canapé pour aller acheter des disques.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? DMX va devenir une superstar interplanétaire en un album. Def Jam, son label, ils vont être tellement chauds. Ils vont dire, vas-y mec, on est chaud, fais-nous un autre album tout de suite. Le mec, il va faire un deuxième album la même année que It's Dark and Hell is Hot. Pareil, le gars va faire triple platine, quadruple platine, tout ce que vous voulez de platine, numéro 1 des Billboard, etc. Superstar. L'année suivante, en 99, donc, il se retrouve à Woodstock. C'est l'image que vous avez vue, je pense, la vidéo que vous avez vue tourner beaucoup lors de sa mort.
Prière.
C'est pas la prière, c'est quand il est en
foule massive. Oui. Et puis qu'on dit que c'est une vraie rockstar, en fait.
Voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Il est en salope. Pète rouge et Timberland devant une foule massive dans ce qui était en fait l'équivalent à l'époque de Coachella. Alors faut vous dire qu'à ce moment-là, le mec, il est connu depuis un an et demi à peu près. Il a sorti deux albums. C'est comme si on faisait Beachella, mais c'était Cardi B quoi.
Ouais.
Cardi B en 2016 quoi. C'est pour faire un truc simple. Et ce qui est clair, c'est qu'évidemment, quand on regarde le film à l'aune de tout ça, on se rend compte que voilà, le charisme du gars, le charisme de DMX explose à l'écran. Évidemment, c'est pas un rôle de composition. Hein. Quand on connaît un petit peu, vous voyez le vécu de DMX, c'est pas compliqué pour lui de jouer un thug, un gangster. Mais malgré tout, il a une présence à l'écran que, par exemple, Nas n'a pas. Nas, il est pas toujours à l'aise avec son texte, notamment quand il doit faire des scènes un peu plus romantique,
un
vous savez,
deep.
Quand il ouais c'est ça, quand il doit parler, quand il parle avec T-Boz, etc., qui joue sa copine et tout, il doit être un peu tendre, machin, il doit être un peu plus machin, il est pas à l'aise avec son texte, c'est pas un acteur et je pense qu'il le sait. Mais quand je regarde DMX du coup dans Belly, je me dis qu'on aurait dû lui donner plus de rôles dramatiques parce qu'il a vraiment une profondeur émotionnelle qui aurait pu vraiment lui permettre de faire ça. Je pense que ça aurait pas dû être seulement un action hero, un Jason Statham noir. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de choses avec ce mec. Donc quand tu regardes le film rétrospectivement et que tu dis que c'est un total inconnu à l'écran et qu'il pète l'écran même devant Nas, tu dis il y avait vraiment un potentiel. Et finalement le DMX a autant apporté à Belly au film que le film a permis à DMX de devenir connu, vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre truc, du coup, qui ferait vraiment que le film reste culte et qui est vraiment important, c'est son esthétique, en fait. Parce que Bailey est un film incroyablement beau. Il est vraiment incroyablement esthétique.
J'ai vu, tu nous avais dit de regarder la scène d'intro où il rentre faire un braquage dans un club, etc. C'est beaucoup plus violent que ce que je pensais. Mais par contre, c'est vrai que c'est
ouais, c'est l'esthétique du clipper qui entre en jeu, quoi.
Bah ouais, on peut se mater un petit extrait de la scène d'intro. Vous avez les éclairages, les bijoux, vous voyez, les lumières comme ça.
Le travail de lumière est fantastique.
Et puis, il rentre dans ce club comme ça, qui s'appelle The Tunnel, qui est un club, une boîte légendaire du hip-hop. Et vous avez ce jeu de lumière à la Euphoria ou à la tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est aussi Hype Williams qui a fait le clip de Juicy de Biggie qui se passe aussi dans une boîte de nuit. Donc bref, il est habitué à ça.
J'allais dire juste un petit truc que ça me fait penser à... il y a quelques années, j'avais vu des vidéos sur ça, notamment Vox, mais d'autres trucs, sur le fait que pendant très longtemps, les Noirs étaient moins bien servis à l'écran sur les questions de lumière, de pellicule.
Issarel en a parlé de ça, de comment éclairer les personnes noires à l'écran.
Ces dernières années, on a un peu changé les choses. C'est beaucoup plus... les peaux noires apparaissent mieux à l'écran. Et ça, c'est donc fin des années 90. Et j'ai l'impression, en fait, de voir un truc de 2018 sur le jeu des couleurs.
Justement, Bailey a un petit peu été la préfiguration de tout ça. Comme je vous disais, voilà, la scène d'intro de Bailey est restée culte. D'ailleurs, Hype Williams a grillé le tiers de son budget sur cette scène.
Sur la scène.
Vraiment, il y a un article qui parle, il y a un article qui résume l'histoire orale de la production de Bailey, et les gens qui étaient sur le staff s'arrachaient les cheveux par rapport à Hype Williams, qui avait une ambition et des exigences artistiques complètement démesurées. Mais du coup, ça valait le coup quand même de pouvoir se la remater aujourd'hui gratuitement sur YouTube. Et l'esthétique de Bailey, vraiment, elle est très similaire à ce que vous pouvez imaginer pour un clip de rap, un clip de R&B. Vous savez, dans le clip, quand par exemple le clip il commence, vous savez, la meuf elle est chez elle, et puis il y a le téléphone qui sonne, tu sais, et puis elle ouvre son Nokia qui se déplie,
avec le clapet,
ou son BlackBerry par exemple dans Dilemma, tu sais, elle a son espèce de truc chelou.
Dilemma et le texto en Excel.
Mais apparemment, Kelly Rowland a dit qu'elle en a marre de se justifier sur ce truc-là. Enfin,
et vous, est-ce que vous souvenez un peu le grain de l'image? On n'avait pas la même netteté qu'aujourd'hui. Le grain de l'image, les couleurs qui sont un peu pastel, etc. Et ben, vous avez le même feeling vraiment dans Bailey. C'est un peu comme si un clip de rap, les passages d'acting des clips de rap et de R&B duraient pendant tout un film. Il y a un truc qui est très très jouissif en fait pour l'œil. Il y a des passages magnifiques, des plans magnifiques qui célèbrent aussi la blackness. Il y a ce plan qui est super connu de Nas qui est sur un canapé noir dans un superbe appartement post-moderne. Il est filmé comme ça en contre-plongée. Il y a ce super tableau sur le mur.
C'est un mannequin connu en plus. J'ai oublié.
C'est Grace Jones ou pas? Non.
Non, c'est pas Grace Jones. Elle est plus jeune que Grace Jones. Mais on retrouvera la ref.
Ouais, mais en gros, il y a toute cette esthétique ultra léchée qui est super intéressante, et le travail justement de June Ambrose sur les outfits, il est incroyable. Donc ça capture vraiment la mode de l'époque. On parlait de mode des années 2000 tout à l'heure. Là, t'as les grandes vestes Avirex, les baggy, les Timberland, le Marité François Girbeau. Là, je vous montre une image de Nas avec les petites lunettes Cartier. Le gars est frais bonbon. C'était quand tu regardes vraiment Bailey, tu regrettes presque la mode de l'époque. Et il y a beaucoup de looks en fait de Bailey qui sont restés très présents en fait dans les esprits. Bailey, c'est un film noir dans le sens le genre cinématographique, vous savez, avec le film noir avec les détectives, les machins, le crime, etc. Un crime movie si vous voulez, mais revisité avec les codes du hip-hop. Donc vous avez toute cette esthétique aussi du clair-obscur et des éclairages très très contrastés. C'est pour ça que le film est resté surtout dans les mémoires. Et surtout, il y a un travail sur du coup les peaux noires, justement. La façon en fait dont Hype Williams filme les peaux noires, elle préfigure les réflexions actuelles justement de Insecure, de Moonlight, etc. Sur la question.
Ben voilà. Je désolé de spoiler il y a 5 minutes, mais c'est à ça que je pensais en fait.
Exactement. Si on peut revoir l'image d'avant. En fait, Hype Williams, il a travaillé avec un un directeur de la photographie qui s'appelle Malik Saïd, qui est un mec qui a surtout été connu pour avoir travaillé avant avec Spike Lee. Et c'est Malik Saïd, en fait, qui a géré les éclairages et la façon dont on capture les peaux. Et en fait, il a, avant chaque scène, avant chaque tournage, Malik Saïd huilait tous les acteurs. Il voulait en fait avoir ce rendu glossy. Il voulait en fait que les peaux noires captent vraiment la lumière de la manière la plus harmonieuse et la plus esthétique possible. Et il y a une interview justement de Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, qui est sorti en 2018, qui dit que Belly, c'est le plus beau film que j'ai jamais vu. Et en fait, c'est en regardant Belly et notamment un autre film qui s'appelle La Cité de Dieu, qui est aussi très connu, qu'il a compris en fait qu'il fallait pas mettre de poudre sur les peaux noires, mais de l'huile de jojoba. Et en fait,
de la poudre sur les peaux blanches.
Bah oui, tu poudres pour pas que le visage ou que le corps brille, en fait.
Oui. C'est ça.
Et là, c'est l'inverse, en fait. Ouais,
exactement. Et donc, en fait, dans l'interview qui est sur un site qui s'appelle The Believer, il dit, en fait, quand j'ai vu Belly et La Cité de Dieu, j'ai compris. Et quand j'ai commencé le tournage de Moonlight, j'ai dit à tout le monde sur le staff, ceci est un tournage sans poudre. On n'utilisera que de l'huile et de l'huile de jojoba et des trucs comme ça.
Du beurre de karité.
Du beurre de karité, exactement. Et donc, ça, en regardant ces films-là, encore une fois, qu'il a compris. Donc, voilà, Belly, finalement, c'est un film qui est intéressant à plein de titres différents. À part ça, que dire d'autre? Ben évidemment, j'ai envie de revenir un peu sur DMX parce que c'est une personnalité pour moi qui était centrale dans le film.
Et comment t'expliques que les gens en France, enfin il y en a qui disent que DMX ils n'aient jamais entendu parler,
Je pense que
on est en Europe occidentale, c'est tout.
Ouais. Mais tu vois, il y a d'autres rappeurs genre Nas, les gens ils savent qui c'est. Enfin,
je suis pas sûr que les gens qui ont tweeté qui connaissaient pas DMX ne connaissent Nas également, tu vois. Je suis pas sûr. Ouais, j'ai un doute là-dessus. Après, je peux me mettre à leur place, t'as vu. Je sais pas qui sont ces gens.
J'ai pas envie de me mettre à leur place.
C'est ça. Mais si tu regardes bien, regarde Jay-Z. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens dans la rue qui peuvent citer 5 morceaux solo, attention, de Jay-Z, tu vois, à part le son avec Alicia Keys. Tu vois, la vérité, c'est que c'est pas si simple que ça. Il y a des superstars américaines qui sont malheureusement, et même mondiales, qui sont pas si connues que ça en France. Donc moi, c'est comme ça que c'est l'acception, tu vois, c'est la compréhension que j'en ai, quoi.
Et sans hijacker la conversation, tout à l'heure, quand je te posais les questions sur, tu vois, les trucs de l'esthétique noire des années 2000, j'étais vraiment sincère, tu vois, quand je posais la question, dans quelle mesure ça arrivait en France, dans quelle mesure le R&B est si populaire que ça en France, enfin je sais pas, je
nous,
pense.
On a le R&B de rue, c'est pour ça.
Ah ouais, non mais moi je pense pas au R&B de rue, hein. Je pense par exemple, moi j'ai déjà entendu des gens, enfin ne pas faire la distinction entre du rap et R&B et dire oui, ben quand j'étais au lycée, j'écoutais comme tout le monde du R&B, j'écoutais Dr. Dre, je me disais non mais c'est pas du, enfin tu vois, vraiment une sorte de méconnaissance.
Il y a aussi des gens sur BFM qui disent que Chris Brown c'est un rappeur, tu vois.
Ouais.
C'est essayé au rap, mais c'est un chanteur, quoi. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que voilà, pour moi encore une fois DMX c'était un, j'ai jamais été autant touché je pense par la mort d'une personnalité publique. Il y a eu qui vous voulez, Aznavour, Johnny,
David Bowie.
Pourquoi tu cites que des blancs? Il y a des morts qui.
Michael Jackson, mais j'en sais rien.
Jackson, ça t'a pas.
Non, en fait, toutes les personnalités dont je vous parle, j'ai été touché par l'ampleur de l'événement parce qu'évidemment, j'avais connaissance que ce sont des gens très, très, très importants, etc. Et qu'il y avait à avoir un avant et un après, si vous voulez. Mais j'avais pas de connexion réellement intime et personnelle à ce qu'ils faisaient, à leur musique. Je pense que la mort en France qui m'a le plus touché, c'est France Gall. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un vrai truc avec France Gall.
C'est
voilà.
Babacar, c'est pour ça.
C'est ça. Elle a DMX, France Gall, voilà, c'est mes deux goats. Et donc voilà, vraiment DMX, il y a un truc, je sais pas pourquoi, qui m'a vraiment très 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 profondément touché. Je sais pas, je pense que pendant toutes ces années, en fait, même vous demandez à mes potes et tout, dans les conversations Facebook, etc., vraiment, j'ai pas attendu la mort de DMX pour restreamer de temps en temps ses albums ou dire, moi je kiffe DMX, etc. Je sais pas, j'ai un truc avec lui. Et pendant toutes ces années, en fait, parce qu'il a été absent pendant très longtemps, du coup, de l'espace musical, on va dire, il était plus connu pour ses frasques, malheureusement, les dernières années, et pour ses problèmes de drogue que pour sa musique. Son dernier album officiel remonte à 2012. Pendant toutes ces années, je sais pas pourquoi, mais j'attendais en fait de le voir revenir. J'espérais qu'il revienne. En fait, j'avais envie de le voir gagner.
Il avait pas des soucis un peu de drogue et de.
Il avait tous les soucis du monde que tu peux imaginer.
Ouais. Je crois que quand il était jeune, on lui a fait fumer un truc avec du crack dedans.
Tout à fait. On l'a fait fumer à son insu en fait quand il avait 14 ans. Son mentor lui a fait fumer un bédo de crack et c'était le début des soucis. Mais voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie qu'il surmonte tout ça et qu'il revienne un jour. Je voulais le voir gagner. Un peu comme les gens ont dit aussi pour Amy Winehouse. Il y a beaucoup de gens qui disaient, putain, on avait envie de la voir s'en sortir et on a été malheureusement déçus par la vie, par la mort. Et ben, moi, j'avais la même chose avec DMX et ça m'a vraiment, vraiment touché de le voir partir et de voir. J'ai regardé toutes les obsèques, toutes les cérémonies, tous les hommages, j'ai lu tous les articles possibles, imaginables, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Et du coup, finalement, une bonne manière, je trouve, de lui rendre hommage, outre de streamer en boucle sa musique, etc., mais ça, tout le monde va le faire, ben, je trouvais que c'était de boucler la boucle, du coup, et de revenir au moment, justement, où, au tout début de l'histoire, finalement, en 98, où
ouais,
il était inconnu et où il allait exploser, justement, à la face du public. Nas a
plein d'opportunités, de potentiel.
Mais oui, c'est ça en fait, tu vois. Et puis le voir vivant, le voir s'agiter à l'écran, le voir, tu vois, bouillonnant de vie, c'est intéressant. Nas, à ses obsèques, raconte que juste avant justement de tourner la scène culte du début là, dans la boîte de nuit, ouais, l'intro donc de Belly, ils sont sur le tournage, ils sont sur le set. Et là, DMX sont en larmes parce que il avait conscience que, alors qu'il y a quelques mois auparavant, il dormait sur le canapé de son ex, il n'avait pas de deal de distribution de ce que vous voulez, bref, c'était un chien de la casse. Et quelques mois après, il se retrouve sur un set avec Nas et toutes les stars de Hollywood, ouais, les Method Man. J'avais oublié de dire que Method Man est dans le film aussi. Il se retrouve avec toutes les stars de Hollywood et il est sur le point de réaliser tous ses rêves, quoi. Et c'est ça, en fait, qu'il a. C'est ça, ouais, c'est ça qu'il a brisé, quoi. Donc vraiment, voilà, pour toutes ces raisons et plein d'autres encore, et parce que c'est pour la culture, regardez Belly, franchement, ça vaut le coup.
R.I.P. dog.
C'était le Chip, et attention, attention, on revient dans une semaine.
Une semaine au lieu de deux.
Incroyable.
Toujours plus de Chip. Le Chip dans les oreilles.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur @lechippodcast. Et vous pouvez nous retrouver également sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud et YouTube. Oui. Où vous pouvez nous laisser
un pouce bleu.
C'est des pouces bleus, c'est ça, c'est des pouces en l'air.
Pas les pouces en bas. Hein. Et puis bien sûr, toutes les applis de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous laisser une review sur Apple Podcast, nous mettre 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Et là, on a notre petite section remerciements. Donc on va remercier tous les gens qui ont contribué à cette nouvelle saison, au lancement de cette nouvelle saison.
C'est un chemin, hein, maman.
Voilà. Donc on va dire merci à Adeline Rapon pour les photos de notre nouvelle identité. On remercie aussi Régine et Alec de l'agence Motema pour la nouvelle identité qui est très inspirée, Spike Lee, tout ça, mais on kiffe.
SO.
C'est trop bien. Et puis on dit merci à Marion et Noémie.
Tout à fait.
Pour le nouveau générique.
Le nouveau générique du Chip.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remerciements à faire ?
Merci mes Sarah. I thank God. Let's pray.
Jesus.
Put your exes up. Merci à Sarah et Mo de Majorelle, évidemment. Merci à Aldric pour le nouveau jingle aussi. Hein. Moi, j'aimais beaucoup le jingle, l'ancien jingle réalisé par Schkid et Binge Audio. Honnêtement, j'ai eu du mal à m'en séparer. Mais du coup, Aldric a fait un super travail et je peux me...
C'est une nouvelle ère qui
c'est
commence.
Ça. Et je peux me retourner, tu vois ce que je veux dire, sans regret, sans regret, le cœur léger. Merci à Adrien, évidemment, pour la réalisation de l'émission. On va lui donner beaucoup de fil à retordre. Des bisous à lui.
Et merci au studio Majorelle pour la production de l'émission.
Prenez soin de vous.
À très vite, à la semaine prochaine du coup. Bisous.